RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Alors la Shoah, la folie nazie ont été racontées par des livres d'une force inégalée. La nuit d'Elie Wiesel, Si c'est un homme de Primo Levi, L'espèce humaine de Robert Antelme et d'autres encore qu'il faut avoir lus. Humblement, des écrivains d'aujourd'hui prennent la suite parce qu'il ne faut pas laisser la mémoire s'évanouir, parce que la question reste vive, comment en est-on arrivé là ? Ils ont la fougue et l'insolence de la jeunesse, l'inconscience aussi. Dans son premier roman, Sylvestre Sbille raconte la jeunesse bruxelloise confrontée à l'occupant. Provoquant, bravache et crâneur, Youra parviendra-t-il à combattre sans prendre des risques insensés ? J'écris ton nom et publié chez Bellefond. Et que l'armée de libération ait eu besoin d'un soutien spirituel ne fait pas de doute. Daniel, rabbin américain, dévoué et idéaliste, accompagne donc les tribus débarquées sur le vieux continent. Quand l'armée arrive aux portes des camps, comment ne pas défaillir devant l'inimaginable ? Comment approcher les survivants, hagards, perdus ? Le temps des orphelins de Laurence Agalovitch est publié chez Buchet-Chastel.
Au pied de la lettre, Christophe Héningue.
Bonjour Sylvestre Sbille.
Bonjour.
Vous êtes belge, originaire de Namur, vivant à Bruxelles, réalisateur de documentaires. Et soudain, l'envie d'écrire. Premier roman pour raconter la guerre, c'était le meilleur support ?
Oui, j'ai toujours écrit des scénarios et donc c'était pas vraiment c'était un changement quand même de format. Mais c'était pas spécialement le sujet de la guerre qui m'a donné envie de faire un roman, mais c'est vrai que ça s'y prêtait bien parce qu'on peut rentrer dans les psychologies et explorer autrement que par le biais de l'aventure et des circonstances extraordinaires ce qui se passe dans ces années-là. On dit souvent que c'est un amplificateur. Puisque les gens sont confrontés à l'horrible, à l'indicible, et donc chacun devient un peu plus que lui-même. Et c'est vrai que dans un roman, il y a moyen de le raconter d'une autre manière que...
De l'intérieur.
Voilà, plus de l'intérieur.
Avec des mots et cette intimité des personnages. Bonjour Laurence Agalovitch.
Bonjour.
Vous êtes franco-canadien, mais né d'un père belge. Donc voilà, quand même un lien avec Sylvestre Sbille et d'une mère tunisienne. Vous habitez Vancouver. Le temps des orphelins n'est pas votre premier livre sur cette question de la Shoah. La mémoire reste vivre aussi de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, mais d'une manière différente. C'est sûr que quand vous êtes au Canada, vous n'avez pas le même héritage et les mêmes traumatismes. Mais moi, j'ai emporté mes traumatismes avec moi et mes souffrances et mes réflexions. Donc en fait, le lieu où j'écris n'a pas beaucoup d'importance. Même si effectivement, si j'étais resté en France, et peut-être qu'on en parlera après, je ne suis pas certain que j'aurais pu écrire ce livre, du moins dans la façon dont je l'ai écrit.
Vous nous ferez rentrer dans votre atelier d'écriture tout à l'heure. Au pied de la lettre, la parole est aussi au critique littéraire. Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le tout nouvel hebdo du quotidien La Croix, un hebdo du week-end qui fait la part belle à la culture, à la poésie aussi. Vous nous en parlerez, puis vous nous partagerez ce coup de cœur. Toujours avec nous Camille Perrier qui m'aide à préparer l'émission et qui nous partagera quelques lectures. Sylvestre Sbille, alors le héros, Youra, jeune médecin, juif, interdit d'exercer, mène une vie un peu de zazou.
Oui, c'est vrai que...
D'original dilettante, vous nous allez nous raconter ça. À Bruxelles, 1943, pleine occupation allemande, c'est ce qu'on voit, c'est la façade. Cette vie de Zazou, mais il y a autre chose.
Oui, là, c'était en 43, la vie de Zazou en 43, elle commence à déchanter sérieusement. Les premières années d'occupation à Bruxelles, je crois que c'était un peu pareil à Paris. C'était évidemment déjà très très dur, etc. pour beaucoup de gens, mais les lois anti-juives et d'autres lois allemandes contre la population se durcissent encore en 41, 42. Et donc l'université de Bruxelles a fermé pour ne pas accepter des professeurs de médecine, en tout cas des professeurs qui seraient soumis à l'ordre nouveau, comme on appelait ça en Belgique. Donc Youra, donc voilà, lui fait partie de cette ambiance là. C'est vrai qu'à Paris on les appelle les Zazous, on les imagine très bien dans un look un peu à la Boris Vian, les grandes ils reprennent un peu ce que les hipsters ont repris plus tard, donc les habits des chanteurs de jazz américains, donc des grandes vestes, un côté des longs cheveux, enfin une manière déjà de dire qu'on résiste. Et c'est clair que c'était anti-bourgeois dans les années 30, et puis c'est devenu anti-nazi pendant l'occupation. C'était une façon de montrer qu'on n'était pas dans cette mouvance-là. Et Youra, oui, il fait encore partie de ces gens qui doivent beaucoup plus se cacher, donc la jeunesse bruxelloise intellectuelle qui continue à faire la fête, à écouter du jazz alors que c'est interdit, à ne pas obéir aux heures du couvre-feu, etc. Et à échapper aussi au travail obligatoire avec des complicités d'amis qui ont... dans ce cas-ci, c'est Marcel Astier qui était un peintre bruxellois. Il avait fait des ateliers, et quand on était inscrit à cet atelier, on échappait pour un temps à toute une série de choses. Donc voilà, c'est cette mouvance-là. Il a un grand frère qui, lui, est un partisan, qui, lui, est entré en résistance depuis longtemps, qui s'appelle Shura Lifshitz. Lui aussi était un intellectuel à la base et un étudiant de l'ULB. Et puis, il est rentré dans la clandestinité. Et donc, Youra n'est pas obligatoirement celui qu'on attendait. Il n'a pas le profil type du résistant qui va se mettre à agir et à faire ce qu'il va faire peu de temps après.
Alors, on va voir justement tout ce qui va se passer, sachant que c'est une histoire vraie. Vous partez de faits réels.
Oui, voilà, c'est une histoire vraie. C'est une histoire que des gens connaissent évidemment en Belgique.
Mais on qui a la été connaît. Racontée.
Oui, voilà, elle a été racontée plusieurs fois, enfin pas mal de fois. Simon Gronowski, notamment, qui était dans ce convoi, a fait un magnifique livre qui est connu, d'autres personnes aussi. Mais elle n'est pas encore assez connue par rapport à le côté incroyable des faits. Donc, on est le 19 avril 1943 et... on est dans un contexte, je vais faire un contexte un tout petit peu plus large pour ensuite expliquer ce qu'a fait Youra. Donc, depuis que le nazisme est au pouvoir, les gens fuient le Reich. À Bruxelles et à Anvers, il y a déjà des communautés juives depuis évidemment des siècles. Et puis, elle grossit très fort juste dans les années avant-guerre. Donc, il y a là toute une concentration de gens. Après, les nazis, comme j'ai dit, durcissent le ton et essayent de les rassembler pour les envoyer à l'Est. Et il y a notamment un endroit entre Malines et Bruxelles, enfin plutôt près de Malines, à la caserne d'Ossin, une ancienne caserne, on rassemble tout le monde et quand on a un certain nombre de gens, on les envoie dans un train. 1000 personnes. Sauf que là, il y a eu un peu de temps qui est passé, donc ils sont carrément 1631.
Et c'est le 20e convoi.
C'est le 20e convoi à quitter la Belgique. Et alors, il y a déjà des gens qui ont réussi à sauter de ces trains, mais en petit nombre. Des gens qui étaient organisés, qui avaient déjà été pris une fois, qui étaient des récidivistes, qui avaient réussi à organiser des systèmes avec des pinces et des limes, enfin, des
Parce qu'on
des
y
outils.
Retrouve principalement des personnes juives, mais aussi des résistants.
Il n'y a pratiquement que des juifs. Mais certains de ces juifs sont en plus résistants et d'autres
et
choses.
Donc,
mais c'est vrai
se laisse pas forcément faire.
Non,
parce
voilà, ils commencent
bien compris que le voyage n'était pas.
Non, qui n'était pas
une bonne nouvelle.
Non, voilà, l'idée de partir, alors on leur prétend évidemment que ce sont des camps de travail, voilà. Mais quand vous voyez qu'ils prennent des bébés, des vieillards, à un moment vous avez compris que ce ne sera pas un camp de travail.
C'est ce que toute cette jeunesse bruxelloise réfléchit, enfin en voyant justement ces convois qui se préparent.
Oui, ben je pense qu'on en reparlera à propos du livre de Laurent, mais moi j'ai dans le milieu où évolue Youra, mais évidemment il parle plein de langues, il est hyper actif dans tout ça. Lui, il est dans un milieu où les gens sont notamment perméables aux tracts communistes. Il y a des tracts communistes qui expliquent que ce sont des camps de la mort depuis longtemps. Ils pensent avoir des informations là-dessus, etc. Mais comme les communistes sont les ennemis des nazis, on dit c'est pour on pense que c'est pour raconter de l'intox, des choses tellement absurdes, tellement elles sont horribles et incroyables. Donc il y a toujours cette mise à distance de l'horreur. Et donc
Youra décide d'intervenir, de faire quelque chose.
Alors voilà, Youra, ce jour-là, le jour de la Pâque, 19 avril, son grand frère avait repéré un endroit et il décide avec deux amis d'enfance qui ont été scouts comme lui et vraiment sur un coup de tête, enfin, c'est pas hyper préparé parce que plusieurs personnes ont essayé de le dissuader en disant il faut être 30, 40, il faut être super bien armé. Donc avec une lampe tempête, trois vélos, deux pinces coupantes et un pistolet prêté le jour même avec 7 balles, ils vont arrêter le train qui part pour les camps. Voilà, c'est un. Alors, plus on se plus on se documente sur, c'est un peu comme l'horreur des camps, plus on se documente sur cette histoire, plus elle semble s'éloigner au lieu de se rapprocher, c'est-à-dire que ça donne une sorte de vertige et que quand on, quand on s'y replonge à chaque fois, il faut se dire, ben oui, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que justement l'horreur est complète. Plus on s'intéresse à cette époque, plus on voit que l'horreur est complète, presque complète. C'est le presque, c'est dans le presque que vient se mettre l'enfant qui est dans le livre dont on va parler tout à l'heure et que vient se mettre Yura et les siens qui font un acte, alors je vous dis, les partisans
insensé.
Sont insensés, voilà. Son propre frère lui a dit non, c'est impossible. Il a été voir d'autres résistants belges connus qui lui ont dit non, et qu'est-ce qu'on va faire avec les gens? Si les gens sautent, si on arrive à en libérer certains, qu'est-ce qu'on va faire avec eux au milieu de la nuit?
Voilà, parce que Yura allume la lanterne, fait arrêter le train, va donner quelques coups de feu aussi. Pendant ce temps-là, les deux compères vont couper les chaînes pour pouvoir ouvrir les wagons.
Voilà.
Ils vont pas réussir à ouvrir tous les wagons, il y a quand même plus de 250 personnes qui arrivent à s'échapper.
Alors, pas juste à ce moment-là. C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que donc les deux autres s'appellent Robert Mestriot, Jean-Franck Lemont, c'est des copains à lui, vraiment. Il y en a un qui a 22 ans, l'autre 25. Et oui, en fait, il y a 50 personnes par wagon. C'est la première fois dans les convois, en tout cas en Belgique, que ce sont des wagons à bestiaux qui sont utilisés, une cinquantaine de personnes par wagon. Ils en ouvrent deux. Et alors, de nouveau, la subtilité, si on peut appeler ça, ou l'horreur des nazis avait fait en sorte qu'ils avaient mandaté des gens par wagon en leur disant, s'il manque une seule personne... Parce qu'il y avait des petites lucarnes, il y avait des jeunes qui pouvaient essayer de s'échapper. On leur avait dit, voilà, s'il en manque un, vous serez tous fusillés. Donc, en fait, ils étaient forcés, si on peut dire, à se surveiller entre eux pour ne pas que les gens soient motivés à sortir. Mais donc, malgré tout, il y en a qui sortent. Il y en a 17 qui sortent. On les a retrouvés dans ce wagon ouvert par Robert Mestriot à ce moment-là. Mais le fait d'avoir entendu les coups de feu, le fait d'avoir entendu de l'activité dans d'autres wagons, les gens vont se motiver à sortir. C'est comme ça qu'avant la frontière allemande, plus de 200 auront eu le courage de sauter.
Il y a une très belle... Alors, bien sûr, vous racontez cette épopée hein, de Yura, et puis on va venir, parce que sa vie est encore bien intense dans ces périodes-là. Il y a le très beau personnage de Régine, l'infirmière, expliquez-nous. Bah, qui est aussi une personne qui a existé.
Bien sûr, voilà. Mais c'est un peu délicat, parce qu'en tant que romancier, il faut s'emparer de la réalité. Et puis, il y a marqué roman sur le livre. Après, les gens savent bien qu'il a fallu un moment se projeter, parce que ces gens, certains ont témoigné, mais on a quelques interviews, on n'a pas toute la vie des gens. Mais donc, Régine Crochemal, elle est bien connue en Belgique, elle est décédée aujourd'hui. Mais donc, c'est quelqu'un qui s'est... ensuite battue toute sa vie pour les autres et pour...
Infirmière.
Mais donc là, elle a une petite vingtaine d'années. Elle est infirmière. Elle a réussi à... Elle porte le numéro 262 dans ce convoi. Chacun a une petite plaquette avec une petite ficelle et un numéro. Les Allemands aiment bien faire croire qu'ils ont tout prévu et que tout est impeccablement organisé.
Tout est listé.
Voilà. Et donc, elle a réussi à préserver son uniforme d'infirmière pendant tout le temps où elle était détenue à Malines, dans cette caserne qui sert de camp de rassemblement. Et elle va réussir à sauter. Elle saute juste avant. C'est aussi l'ironie de elle saute quelques minutes avant que Yura et ses compagnons n'arrêtent le train. Elle sent qu'il est en train de freiner. Elle se dit c'est maintenant. Elle saute quelques centaines de mètres avant. Donc ça, c'est la réalité aussi. Elle faisait partie d'un comité, si on peut appeler ça comme ça. Je me souviens plus exactement le front, je pense, des Autrichiens, en tout cas, qui étaient en Belgique. Et ces gens-là avaient décidé d'aborder les soldats du Reich dans la rue, un par un, pour les convaincre de la folie collective dans laquelle ils étaient embrigadés. Et donc elle a continué à faire ça, même après avoir sauté du train. C'était une femme totalement exceptionnelle, vous l'avez compris.
Yura, il y a aussi ce côté un peu presque inconscient et insolent. Parce que, il va essayer de s'arranger avec Romanovitch, qui est un homme trouble, hein, qui fricote, j'ai envie de dire, avec l'ennemi, qui trafique un peu. Mais même Yura, c'est pareil, il cherche à voir même ce responsable allemand qui est là pour la question juive, telle qu'il le dit.
Voilà, ouais, alors Kurt H, pour le nommer, donc c'était l'officier allemand responsable de la question juive en Belgique pendant toute la guerre. Et il a été retrouvé par les époux Klarsfeld et jugé en 1980. J'en parlais hier avec avec Marc Philipson, qui a une librairie filigrane à Bruxelles, chez qui je parlais hier. Il me disait qu'il était dans l'avion en 1980, qui a été au procès avec tous les gens qui venaient témoigner contre lui. Et voilà, une partie de jeunes juifs bruxellois aussi qui étaient là par idéal et pour un peu voir ce qui se passait. Donc Kurt H, responsable de la question juive, c'est un de mes personnages. C'est un Allemand assez un officier nazi assez schématique. En tout cas, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'en fais un intellectuel? Est-ce que j'en fais quelqu'un? Mmh. Bon, je pouvais pas changer sa personnalité, hein, mais j'étais un peu jaloux des Allemands qui sont dans certains films, dans Amen ou dans Le Pianiste, et qui sont... on a l'impression qu'on pourrait un tout petit peu plus comprendre l'âme et ce qui a pu se passer dans l'esprit du nazi quand il a l'air intellectuel. Mais je pense qu'on se trompe, mais enfin bon, c'est un fantasme que j'avais au début de l'écriture.
Kurt H...
Kurt H, c'est vraiment la caricature, violent, alcoolique... bête, très obéissant, très peur de la hiérarchie, ça montre aussi entre guillemets l'intelligence, en tout cas du pouvoir nazi, en tout cas l'efficacité, c'est qu'ils avaient vraiment une hiérarchie très très forte et très totalitaire. Donc lui, c'est mon méchant absolu. Puis il y en a un autre qui est encore pire, si on peut dire, c'est-à-dire c'est le traître Romanovitch.
Je reviens juste quand même aux Allemands, parce que je reprends dans votre livre, vous écrivez: l'Allemagne de 1943 est une cour d'école où les vilainies de chaque petit sous-chef ont pu fleurir sous le regard protecteur du Roitelet. Le Roitelet, c'est Hitler. Cette page-là est extraordinaire aussi pour montrer justement ce que vous dites à l'instant, hein, c'est que on ne comprend pas comment ces hommes ont pu arriver à de tels comportements, de telles erreurs.
En même temps, c'est pour ça d'ailleurs, je pense que le nazisme continue et continuera à nous fasciner bien longtemps, c'est que c'est vraiment un cas d'école. Et plus on s'y forme, plus on forme le regard à essayer de décrypter ce qui a pu se passer, plus on se prépare à essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous parlez d'un Roitelet avec sa curia qui fait régner la terreur et c'était le cas. On va pas refaire tout l'historique entre Goebbels, Göring et Himmler, et chacun
avait dressé des portraits.
Voilà, et chacun a sa personnalité.
En une demi-page, mais alors c'est réglé, hein.
Chacun a sa personnalité. Plus on les étudie, plus on se rend compte que chacun avait son propre petit empire maléfique très personnel, avec chaque fois une vision très différente des choses. On a du mal à comprendre vraiment les théories nazis, à part la grande théorie raciale qui fonde tout, mais ils sont chacun leurs obsessions, et on se rend compte que justement le pouvoir totalitaire, c'est des places réservées pour les obsessions de chacun des petits sous-chefs qui cherchent à exister dans leur vilainie et dans leur complexe et dans leur envie de régner, on va dire comme ça, quelque chose de très humain qu'on retrouve, et qu'on retrouve donc justement aujourd'hui, quand on voit tous les pouvoirs extrémistes qui montent partout en Europe, mais aux États-Unis, au Brésil, etc. Une fois qu'on a vraiment décrypté, enfin le peu qu'on a pu chacun, un pouvoir totalitaire extrémiste, le pire de tous, dans les années 30 et 40 en Allemagne, les filtres tombent, et alors on voit clair beaucoup plus, je pense, dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça, les gens aussi vous parliez du Roitelet qui est Hitler, tout d'un coup j'ai pensé à d'autres Roitelets.
À chacun de chercher. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez bien que Jura effectivement va s'engager dans ce coup d'éclat, mais Romanovitch qui trafique, il est pas loin, et puis Kurt H, et finalement c'est un petit monde qui se croise malgré tout.
Oui, c'est-à-dire que Pierre Romanovitch, c'est un cas très intéressant aussi. Donc, il a disparu en 1946, on l'a jugé, et puis, enfin bref. Et lui, c'est un cas incroyable. Donc, c'était un faux russe blanc, bruxellois, qui parlait beaucoup de langues, qui avait réussi à il pactisait avec l'ennemi. C'était un collabo notoire, mais on pense qu'il a quand même rendu des services à la résistance. Et voilà, c'est une époque tellement particulière, tellement trouble, que pouvait très bien le matin faire du marché noir et l'après-midi revendre des armes que vous avez eues. Ben, vous préférez les revendre à des résistants parce que ça vous amuse. Enfin, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement cynique. Mais Jura veut se rapprocher de lui parce que lui, il connaît tout le monde. Il roule en voiture alors que plus personne ne roule en voiture. Il a les femmes qu'il veut, il a les entrées partout où il veut. Pas de couvre-feu pour lui. On sait que Kurt H l'a sorti de prison 7 fois. Entre je sais plus quel moment, 42 et début 43, donc on a très bien compris que le gars était une crapule. En même temps, comme je dis, une crapule qui peut aussi être utile à la résistance. Donc oui, voilà, on prend des risques en côtoyant des gens qui sont très, très dangereux à côtoyer. Ouais, mmh.
Ouais. Comment, alors il y a plein de choses hein, dans le livre, on ne va pas tout raconter, mais vous-même, comment vous avez côtoyé justement cette époque, ces personnages pendant l'écriture? C'était difficile, douloureux?
Je pense que ça aussi, on en parlera tout à l'heure, mais ouais. C'est vrai que quand vous devez vous mettre dans le train avec eux, c'est je pense, le plus difficile. C'est plus facile d'être avec Yura, sa bande de jeunes, son espoir, etc. Moi, je m'identifie, si je peux dire, plus facilement à lui que la dureté, l'horreur absolue d'être dans la caserne, déjà à Dossin, dans le camp de rassemblement, ensuite dans les trains, et ensuite dans Bruxelles, où on continue à vous rechercher. C'est des moments, en effet, quand on écrit, il faut... Il faut faire un exercice mental pour revenir dans l'ambiance où on était la veille pour écrire. C'est pas un truc où on dit ah ben je vais faire mes courses, ensuite j'écrirai la scène, voilà. Pour moi, pour m'y plonger, j'étais très proche de mes grands-parents qui avaient plus ou moins l'âge de Yura, qui étaient ma famille de ce côté-là, du côté de ma mère, ils sont maroquiniers, et donc à Anderlecht, un quartier, voilà. On reconnaît, au plus on apprend sur Yura, sur ses amis, je reconnaissais toutes les rues, il a fait l'université libre de Bruxelles où j'ai été aussi. Il est très proche du mouvement de la théosophie. Moi, quand j'étais petit, j'étais à l'école Steiner, un anthroposophe qui était aussi proche de la théosophie. Donc, j'ai suivi ses pas. Les bâtiments n'ont pas trop changé à l'université. Il était au Libre Examen, qui est un journal étudiant, qui était libre exaministe, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire qui essaye de faire table rase de tout ce qu'on sait avant pour vraiment chaque fois faire de la critique historique et avoir un sens critique sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qu'on lit. Et c'est vrai qu'il est aussi dans une période un peu sartrienne, pré-camusienne, comme ça, sur le sens de la vie auquel on peut se rattacher, avec, comme je disais tout à l'heure, un esprit Boris Vian, un esprit de gens qu'on connaît, avec une sorte de liberté d'esprit auquel moi je me suis aussi plu à... Donc il y a Bruxelles, le décor, tout ça, et il y a aussi la personnalité de l'époque, et de Yura en particulier, l'intellectuel, philosophe, qui passe à l'action.
Et ce clin d'œil à Éluard, j'écris ton nom, le titre du livre.
Oui, j'ai eu cette idée et puis j'en ai parlé avec mon éditrice qui m'a dit que c'était une bonne idée. Puis je lui ai dit, mais si ça se trouve, le poème date de juste un an ou deux après, parce que je savais que c'était un poème de guerre, mais je savais pas exactement de quand. Et puis j'ai appris que le poème avait été recopié sur des tracts qui ont été lancés sur Paris et sur Bruxelles dans ces mois-là. Donc ça tombait bien. Il pouvait avoir reçu effectivement ce tract qui traîne dans une de ses poches.
Stéphane Bataillon. Oui, c'est le poème d'Éluard, hein, Liberté.
D'ailleurs, il s'appelait pas Liberté au départ, hein. Il s'appelait une seule pensée, qui était. Il devait être dédié à sa femme.
D'accord, ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça.
Et à un moment, il s'est dit, mais en fait, ma femme, elle représente mon absolu, et mon absolu, c'est la liberté. Donc, et c'est vrai qu'il a eu une carrière hein, durant la guerre. Il a été écrit en 42, et il a été ensuite publié dans plusieurs revues pour passer en France Libre. Il a été distribué. Hein, par la Royal Air Force, balancé à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc il a eu une résonance importante, ce poème, jusqu'à aujourd'hui.
Mmh. J'écris ton nom, donc un très long poème qui se termine par ce mot justement de liberté, qui devient le titre donc un peu plus tard, quand il est publié, c'est ça?
Il a été publié, quand il l'écrit la première fois en zone occupée, il l'a changé, donc c'est bien liberté. Et ensuite, pour passer dans la zone sud... Il est renommé Une seule pensée, pour essayer de masquer un peu le côté clandestin.
Bon, on va écouter un petit extrait de votre livre. J'écris ton nom, Sylvestre Usby. Allez, Camille, on vous écoute.
Un piège. Yura s'en veut. Le temps s'allonge et il a tout le loisir de s'en vouloir. C'est Romanovitch qui lui a donné le tuyau, celui de la promenade, du rituel quotidien après le restaurant. Mais Yura n'a pas dit à son frère d'où lui venait l'information. Shura aurait voulu vérifier, contre-vérifier, trouver d'autres sources, faire de cette piste quelque chose de valable. On aurait perdu des jours, des semaines. Le gros Jacques aurait changé ses habitudes, pris un garde du corps, tout en continuant sa traque et ses prises. Yura regrette. Il aurait dû donner la source. On ne s'improvise pas résistant, actif, partisan, soldat. Le gros Jacques les regarde. Derrière eux, les pas se rapprochent.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les azous, c'est les azous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales. avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou, voilà le zazou, y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers. À votre tour, un de ces jours, vous serez tous zazous comme eux, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain, brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit dans la cafetière. Il est zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers.
Eh oui, il y a des zazous. Comme dans le livre de Sylvestre Sbille, J'écris ton nom, publié aux éditions Belfond. Je reçois aussi aujourd'hui Laurent Sagalovitch pour Le temps des orphelins, publié chez Buchet-Chastel.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Laurent Sagalovitch, alors le rabbin Daniel accompagne l'armée américaine, il fait preuve d'une grande foi, d'une forme aussi peut-être de naïveté, en tout cas de sincérité désarmante. Et puis ils approchent des camps, et là, c'est la stupéfaction.
Oui, c'est quelque chose, c'est très difficile à réaliser aujourd'hui, où on a l'impression que notre imaginaire est saturé par l'évocation de la Shoah, où finalement pas un jour ne se passe sans que d'une manière ou d'une autre, le sujet soit évoqué, mais c'est ce qui m'a fasciné dans l'écriture de ce livre, c'est que ces gens-là, que ce soit les soldats ou les aumôniers, qui débarquent en Normandie, remontent sur Paris, participent à la bataille des Ardennes, vont découvrir tout à fait par hasard, par accident, les premiers camps de concentration qui se situent sur le sol allemand. Et ce qui est incroyable à réaliser, c'est que d'abord ils n'en savaient rien, et quand ils pénètrent à l'intérieur des camps, quand ils voient toutes ces personnes, ces hommes et femmes et enfants qui ne ressemblent plus à rien, qui sont des fantômes, des squelettes, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qu'ils voient. C'est-à-dire que leur pensée ne parvient pas à mettre un nom sur le spectacle qu'ils ont devant eux. Et c'est quelque chose qui en dit long sur la condition physique et psychique de ces gens-là, qui sont tellement fatigués que un grand nombre va mourir devant eux, devant les soldats, devant les aumôniers, vont s'effondrer. Et le taux de mortalité dans les jours qui vont suivre la libération des camps, libération que je mettrai entre guillemets, vont être terribles, avec un taux de mortalité absolument épouvantable. Donc, ces gens-là sont effectivement saisis par cette horreur qui se déploie devant eux et qui, comparée à la guerre, évidemment, est toujours une tragédie. La guerre est quelque chose d'absolument abominable. La Seconde Guerre mondiale a son lot d'horreurs dont on connaît tous le visage, mais la guerre, ça reste quelque chose qui a ses règles, qui a ses lois, qui a ses coutumes, ses horreurs quotidiennes. On fait la guerre, mais on sait pourquoi on l'a fait et on sait à quoi on peut s'attendre. Tandis que là, on est dans une toute autre dimension. On bascule soudainement dans un univers où tous les repères s'effacent et l'on rentre dans une terre inconnue qui effraye, qui sidère et qui plonge les âmes dans une perplexité insondable.
C'est ce qui arrive à ce rabbin qui ne sait que dire. Alors, à la fois, il dit pardon de n'être pas arrivé plus tôt, et en même temps, il essaie de parler de Dieu, mais forcément.
Oui.
C'est un peu dans le vide.
C'est ce qui m'a intéressé. C'est probablement pourquoi j'ai choisi le personnage d'un rabbin. En posant la question de la foi, c'est-à-dire que Daniel, qui arrive du Nouveau Monde avec une certaine naïveté, avec sa jeunesse, avec sa fraîcheur d'esprit, quand il se retrouve confronté à l'horreur, lui non plus, il ne la comprend pas, mais n'arrive plus à concilier sa foi avec la tragédie qui se déroule sous ses yeux. Il y a là comme une incompatibilité métaphysique qui va évidemment provoquer chez lui une sorte de vertige, une sorte de doute absolu où il se rend compte très vite que les paroles qu'il peut dire, les prières qu'il peut réciter, comparées à l'extrême solitude, à la fatigue de ces gens-là, n'a plus aucun sens. Quoi. Les paroles qu'il dit, les versets qu'il chante sont complètement, sont presque obscènes comparées à la souffrance endurée par ces corps religionnaires. Et donc, petit à petit, au fil du livre, non seulement la foi de Daniel vacille, mais elle finit presque par se briser parce que c'est comme un divorce. Il est divorcé entre cette idée d'un Dieu aimant et la tragédie des camps.
Il est où ton Dieu? C'est ce qu'on lui relance. C'est ce qu'on.
Oui, parce qu'évidemment, les déportés qui sont là, enfin les seuls qui sont capables de lui parler et de l'interroger, sont extrêmement remontés contre Dieu. Enfin, remontés, le terme est faible. Ce sont des gens qui ont absolument tout perdu, qui ont survécu au pire du pire, parce que Buchenwald, à l'origine, n'est pas un camp d'extermination. C'est juste un camp de concentration où, au premier temps, on enfermait d'abord des prisonniers politiques, puis des prisonniers de droit commun, puis des tziganes, puis des homosexuels, puis des juifs, mais pas en majorité. Ce n'est que en 44-45 que, lorsque les armées soviétiques commencent à regagner du terrain en Pologne, les Allemands ont cette idée complètement folle de rapatrier les habitants, les prisonniers des camps d'extermination d'Auschwitz et de Treblinka en Allemagne. Et donc, c'est là les fameux marches de la mort où on est au-delà des mots. Donc, les gens qui se trouvent à Buchenwald non seulement ont survécu à Auschwitz, donc ils ont vu évidemment toute leur famille disparaître sur leurs yeux, mais en plus ils ont eu à affronter ces marches de nuit effectuées dans un hiver terrible, et donc ils arrivent dans un état de faiblesse inouï à Buchenwald, et évidemment quand ils entendent le rabbin essayer de les réconforter, ils ne peuvent pas l'entendre, et leur seule réponse est une colère, est une mise en accusation où ils lui disent au rabbin: mais où étais-tu, toi, où était ton Dieu pendant que moi je voyais les miens disparaître, pendant que je voyais toute cette mort à l'œuvre, que faisais-tu?
Et ça le fait complètement basculer, hein. J'avais appris à ne jamais haïr les hommes, à toujours les considérer comme des victimes innocentes d'un monde bien trop violent, à toujours les excuser de leurs méfaits, à chercher un moyen de les sauver des ténèbres. Là, il est presque lui-même, il prend pour lui cette violence.
Mais oui, parce que, en fait, tout s'effondre comme le monde s'effondre, finalement toute l'humanité s'effondre. Moi, j'ai toujours eu cette impression que, quelque part, la civilisation, notre civilisation occidentale, s'était terminée à Auschwitz. C'est-à-dire que toute notre espérance, notre foi dans le progrès de l'humanité, dans l'accomplissement, dans l'émancipation de l'être humain, finalement, est une idée qui ne peut plus exister, du moins dans sa forme initiale, après la découverte des camps, qu'il nous faut revisiter toute notre imaginaire. C'est pour ça que j'ai appelé cela le temps des orphelins, parce que, alors il y a un enfant, on va en parler, mais nous aussi nous sommes orphelins de cette espérance-là. Et Daniel, qui est finalement un humaniste avant tout, un homme un homme bon, qui aime son prochain, qui veut l'aider, là, il se rend bien compte que il est entré dans une dimension où son discours n'a plus cours, où ses repères d'avant, son espérance ne peut plus le sauver, ne peut plus être entendu, et que à partir de là, c'est un gouffre qui s'ouvre devant lui, hein, une nouvelle fois, une sorte de vertige métaphysique.
On est au-delà des mots, mais vous le dites, effectivement, il y a ce gamin au milieu du camp, et tout le monde lui dit, il faut le sauver, il faut faire quelque chose pour lui. Et là, il n'y a pas de mots, mais il faut agir. Il faut faire quelque chose.
Oui, alors...
C'est qui ce gamin ?
Mais je ne sais pas. Alors, ce qui est très, très étrange, c'est que moi, quand je commence le roman, j'ai simplement le personnage de Daniel. Et je ne sais absolument pas ce qui va lui arriver. Je sais qu'il va le découvrir, les camps de concentration, mais ça s'arrête là. Et puis, vers la page, je ne sais pas, 20, 30 peut-être, j'entame un nouveau chapitre. Et à un moment, j'écris, Daniel est entouré de déportés, et il lève les yeux, il rencontre le regard d'un enfant. Et en fait, je découvre cet enfant avec lui. Et je ne sais pas qui est cet enfant, je ne sais pas ce qu'il fait là. J'ai même envie de lui demander, mais qui es-tu? Que veux-tu? Et pourtant, au moment précis où je le découvre, je sais qu'il va m'accompagner tout au long du roman. Et c'était un moment extrêmement étrange, extrêmement bouleversant aussi. Cette naissance, cette quasi-apparition qui me prend à la gorge. Et comme si quelque part, l'enfant me tendait la main et me disait « Accompagne-moi, essayons ensemble de retrouver mes parents ». Et voilà, donc, évidemment, Daniel va aller au-delà, devant cet enfant, va prendre sa main, va, à sa manière, essayer de retrouver ses parents, parce que finalement, c'est la seule chose qui lui reste à faire, ce petit enfant, c'est la dernière petite flamme d'humanité qui reste, ce dernier crachat de vie, ce souffle, mais tellement faible, et il essaye de le protéger, il essaye de faire que cette flamme ne s'éteigne pas tout à fait, afin que finalement l'humanité puisse survivre à la catastrophe finale.
Et quand il a quitté son domicile, quand il a quitté sa femme, elle lui dit « Ne reviens pas avant d'avoir sauvé le monde ». Et c'est une forme de... Oui, enfin, et lui dit « Oui, bien sûr, pas de problème ». Il n'imagine pas.
Non, à aucun moment.
L'immensité de la tâche.
À aucun moment. Mais c'est ça qui est vraiment sidérant, c'est de se dire que quand les gens s'engagent, quand les forces alliées débarquent, mais à aucun moment ils ne s'imaginent, parce qu'on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer que des hommes décident un jour d'enfermer d'autres hommes dans des chambres à gaz ou dans des fours à crématoires. C'est quelque chose que laquelle personne n'a jamais songé, et quelque chose que j'ai découvert moi quand je me suis documenté, c'est Eisenhower et la fulgurance qu'il a eue, parce que évidemment quand on découvre le tout premier camp d'Ortruf le 11 avril 45, on dit à Eisenhower de venir en toute urgence sur les lieux du drame, et donc il arrive, il voit les bûchers, il voit les flammes, il voit les tas de cadavres qui montent au ciel, l'odeur insupportable, et il comprend très vite que personne ne le croira. C'est-à-dire que ce qu'il voit, lui, Eisenhower, il a cette prescience que quand il rentrera en Amérique et racontera ce qu'il a vu, personne ne pourra le croire, parce qu'on est au-delà de l'horreur, on est au-delà des mots, on est dans quelque chose qui ne peut pas être dit, si bien que à peine arrivé à l'état-major, il télégraphie à Washington et il intime l'ordre d'affréter deux avions remplis de députés, de sénateurs, de journalistes, d'hommes de cinéma, de capitaines d'industrie, afin qu'eux-mêmes viennent se rendre compte de ce qu'il a vu. Tellement il pressent, en fait, il pressent le révisionnisme, il pressent tout ça en quart de seconde, cela lui saute au visage, et il a ce magnifique geste de dire aux Américains de venir sur place constater les dégâts.
Et il y a justement Esther, la femme de Daniel, du rabbin, qui elle est restée aux États-Unis et qui intervient dans votre roman par la correspondance. On sent une grande générosité chez cette femme, et comme vous le dites à l'instant, elle ne peut pas imaginer ce qui se passe.
Non, elle ne peut pas. Alors c'est un personnage que, quand j'ai écrit une première version du livre, elle n'était pas présente. Et je sentais que le roman avait un déséquilibre, et puis je pensais au lecteur parce que moi-même en relisant, j'avais quand même une sorte de suffocation et une sorte d'épouvante à lire. Et donc je me suis lancé dans cette correspondance afin d'offrir une sorte de respiration au lecteur à un moment où il peut un peu reprendre ses esprits, se ressaisir, avoir une sorte de légèreté, et qui évidemment est une légèreté insoutenable comparée au drame que vit Daniel, c'est-à-dire est-elle dans sa vie au quotidien dans un coin reculé des États-Unis, donc très loin des débats du théâtre des opérations. Et donc elle raconte à Daniel sa vie au tous les jours, la naissance de l'enfant, de son enfant à elle qu'elle a eu avec Daniel avant de que Daniel ne s'engage. Et évidemment, il y a une sorte de contraste qui est presque absurde, quoi, avec les ténèbres auxquelles doit faire face Daniel. Et c'est ce contraste qui m'a aussi intéressé, la vie au loin, la vie en Amérique, la vie normale, la vie dans sa banalité, dans sa légèreté, et puis la tragédie impossible.
Sylvestre Sbi, vous avez lu Le Temps des Orphelins, le livre de Laurent Sagalovitch.
Oui, moi, il y a un moment, ça fait 3-4 lignes dans le livre, mais ça m'a vraiment interpellé. C'est parmi toutes les questions entre ce que vit Daniel à ce moment-là et sa vocation et son métier de rabbin. À un moment, vous rappelez cette idée qui est aussi qui se trouve dans les livres sacrés et qui dit est-ce que l'absence de Dieu n'est pas encore un peu de sa présence? Est-ce que c'est pas sa façon de se manifester aux hommes quand il ne dit plus rien, quand il laisse faire les choses? Est-ce que c'est encore... Alors ça peut être vu j'ai l'impression, de deux manières. Est-ce que c'est les hommes qui sont tellement dans le pétrin, qui ont tellement besoin d'encore trouver un signe de Dieu qu'ils vont dire que même l'absence est
une
présence?
Même l'absence, c'est déjà ça.
Et voilà. Mais ou alors c'est dans l'autre sens, et il faut, comme commence à le faire le rabbin dans votre histoire, commencer à douter questionner sa propre foi. Mais c'est vrai que c'est un contexte particulier, puisque là c'est très très compliqué de la garder intacte, en tout cas.
Les cauchemars sont les rêves d'un monde qui n'a pas encore reçu la lumière de l'Éternel. Ça veut dire que cette lumière, Laurent Sagalovitch, elle peut à nouveau briller?
Ça, je n'en sais rien. Il faut y croire. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que d'y croire. Mais de toute évidence, comme je disais tantôt, quelque chose s'est cassé à Auschwitz. Et comme disait mon collègue
Sylvain Sosby,
évidemment, c'est vertigineux, cette histoire du silence de Dieu. Évidemment que certains interprètent comme une présence, mais qui est en même temps insoutenable, c'est-à-dire Daniel n'arrive pas à concevoir cette idée que si Dieu existe, un Dieu qui en plus pour le peuple juif est toujours intervenu lorsque son peuple était en danger, comment a-t-il laisser se perpétrer un tel massacre? Quelle faute a donc commis le peuple juif pour que son Dieu lui marque une telle indifférence? Et évidemment, c'est une idée qui est insoutenable pour lui. Il ne dit pas que Dieu n'existe pas, il dit simplement « moi, ce Dieu ne m'intéresse pas ». Si Dieu a laissé se perpétrer un tel massacre, quelles que soient ses raisons, et j'entends bien que ces raisons ne sont pas destinées à être comprises par les hommes, je ne veux plus avoir affaire avec lui parce que ma foi en l'humanité ne peut pas exister de cette manière-là. Et évidemment, nous en sommes tous là. Je pense que nous sommes tous des survivants de cette époque-là, que nous devons de nous débrouiller avec ce chaos mental en espérant qu'effectivement, la lumière ne soit pas totalement éteinte.
On l'a compris, un livre bouleversant, mais aussi emprunt d'une vraie tendresse pour les personnages et ce ce rabbin Daniel est particulièrement émouvant. Allez, un petit extrait de lecture du livre « Le temps des orphelins » de Laurent Sagalovitch.
J'ignore combien de temps je suis restée ainsi à recueillir leurs témoignages. La seule chose dont je me souviens, c'est de mon carnet saturé de notes, de noms, de prénoms, de dates. Une litanie de noms d'épouses, de mères, de sœurs, d'oncles, de tantes, de cousins, d'enfants, dont on voulait savoir où ils se trouvaient, s'ils étaient seulement encore en vie, s'ils avaient eu l'opportunité, la chance d'échapper aux nazis, à leur politique d'extermination, dont je pris conscience à ce moment-là, seulement, vraiment conscience, quand les uns après les autres, ils vinrent me confier les circonstances de leur arrestation.
Quelques notes de la bande originale de La Liste de Schindler, musique écrite par John Williams en 1994, interprétée au violon par Itzhak Perlman. Au pied de la lettre, aujourd'hui, je reçois Sylvestre Osby pour J'écris ton nom, publié aux éditions Belfond, et Laurent Sagalovitch pour Le Temps des écrivains, pardon, Le Temps des orphelins. C'est joli, non? Le Temps des orphelins chez Bûcher Chastel.
Au pied de la lettre, RCF.
Stéphane Bataillon, c'est le moment du coup de cœur pour la poésie. Alors dites-nous déjà, l'hebdo La Croix est sorti là début octobre, oui. Et chaque semaine, il y a un espace poésie.
Oui, chaque vendredi, depuis le 2 octobre, vous pouvez retrouver La Croix Hebdo, où on va présenter chaque semaine, en fin de journal, dans une belle page pour terminer, une poésie contemporaine. Donc ça va être l'occasion de, c'est l'occasion de faire découvrir une poésie en train de se faire. Venu de tous les pays du monde. Et voilà, en vous écoutant, je me disais que bah, cette foi en l'humanité, peut-être que la petite lumière apportée par une poésie peut la raviver. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeune poète allemand.
Alors, les variations de la citerne, allons-y.
Ouais, Jan Wagner, un jeune poète allemand d'aujourd'hui, dont le second recueil traduit vient de paraître. Et on a un petit côté, il y a un petit côté zazou dans sa poésie. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vous lis un poème qui s'appelle Hippocampus. Ce qui reste n'est pas le fond de Limoncello, de la lune au-dessus de Naples, ni la suite avec vue sur le golfe. C'est la lueur ennuagée, le glouglou derrière les grosses vitres de l'Institut marin. Les hippocampes face à face en miroir. Deux hippocampes, chacun dans son armure, presque vitré, qui semblait tenir droit plutôt que de nager, comme s'ils s'auscultaient l'un l'autre, ou une suite de Bach, comme les ouïes en F d'un violoncelle. Alors à partir de l'observation des petits riens de la vie quotidienne et d'instants attrapés au vol, Jan Wagner, qui est né en 71, propulse son imaginaire dans un tourbillon d'images, sans lien apparent à la première lecture. Des serviettes de table prennent la mer, un essaim de moucherons se confond avec une nuée de signes typographiques, ou encore une symphonie de Bruckner qui transmute la ville grise en rêve de Grand Canyon. Et puis petit à petit, on se laisse prendre au rythme d'un sorte de Trois petits chats, vous savez, cette chanson, cette ritournelle, qui serait chantée pour grands enfants. Dans le sillage de Francis Ponge et de son parti pris des choses, les objets alentours semblent alors prendre vie au fil des pages. Ils nous racontent leur histoire, des histoires qu'on ne soupçonnait pas. Sautant d'un poème à l'autre, puis regardant ailleurs, on se surprend à regarder le monde un peu différent, l'attention ravivée, presque l'empathie renforcée pour toute la matière et la nature autour de nous. On nous parle souvent de garder son esprit d'enfance. Eh bien, cette poésie, sans s'abaisser, nous aide à goûter le monde. Pour preuve, c'est deux petits poèmes qui parlent d'une citerne recueillant l'eau de pluie au fond du jardin et qui donnent son titre à l'ouvrage. Levant le couvercle, je me suis abîmé dans l'œil énorme du merle. Dessus le prunier, dans le jardin froid, serein, tel un maître zen.
Allez, encore un pour la route.
Une ultime goutte tombe de l'arbre. En silence, vibre sourd le gong. Je vous invite à vous plonger donc dans cette poésie étonnante de Yann Wagner. Ça s'appelle « Les variations de la citerne » et c'est paru chez Actes Sud.
Voilà, et traduit la traduction ?
Traduction de l'allemand par Julien Lapère de Cabane et Alexandre Pateau.
Merci Stéphane Bataillon pour ce moment de poésie. Sylvestre Sbil, vous êtes parti, hein, on l'a dit tout à l'heure, de faits réels, ce qu'on appelle l'exofiction maintenant. Ça vous semblait important de remettre un peu de vie, de chair autour de ces personnages?
Oui, chaque fois que je repensais à cette histoire de train, je me disais, c'est vrai que c'est totalement incroyable. Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait l'histoire des gens qui avaient sauté et qui étaient dans cette gare où ils attendaient le tramway, si vous vous souvenez, pour rentrer vers Bruxelles, et les Belges qui sont là, qui sont des nafteurs, on va dire, qui vont rentrer, voilà, qui vont aller travailler, se rendent compte qu'il y a un truc qui se passe et ils les amalgament, voilà, ils les protègent, ils parlent avec eux, ils leur donnent des vêtements, voilà, c'est une histoire dont on a pas mal parlé à ce moment-là, puis après la guerre, l'histoire du train est devenue un peu mythique dans les milieux underground et résistants. On leur prêtait des centaines de gens sauvés, de gens qui avaient sauté. Donc on me racontait cette histoire, mais j'oubliais que quelqu'un avait arrêté ce train, ces trois jeunes gens. Et c'est vrai que voilà, tout d'un coup, ça m'a semblé obligatoire à raconter.
Trois jeunes, donc, dans cette histoire, j'écris ton nom, de Sylvestre Sbi. Laurence Agalovitch, votre rabbin, finalement, alors c'est aussi un personnage très fort, mais est-ce qu'il n'a pas un caractère universel? Est-ce qu'il ne parle pas un peu pour nous face à l'indicible?
Oui, je le pense, du moins c'est comme ça que je l'ai créé. C'est le porte-parole de l'humanité agonisante, c'est le porte-parole de nous, finalement, qui nous nous retrouvons face à quelque chose qui nous dépasse et face auquel nous n'avons pas vraiment de réponse et nous restons interloqués. Et c'est pour ça que ce que j'aurais pu prendre finalement un journaliste ou un photographe de guerre ou même un soldat, mais il me semblait que la dimension spirituelle de la Shoah aurait fait défaut. Or, il m'apparaît toujours que c'est joué aussi pendant cette période, ce drame métaphysique qui remet d'une manière extrêmement aigu le questionnement de l'existence de Dieu et dont évidemment nous n'avons pas la réponse, mais et qui continue à nous hanter et finalement à nous tourmenter même jusqu'à aujourd'hui.
Il faut lire vos livres, parce que c'est ce que je disais en commençant l'émission, c'est important que aujourd'hui les écrivains d'aujourd'hui puissent remettre encore cette question qui nous reste très présente. En même temps, j'ai envie de vous demander à l'un et l'autre, dans les grands titres que j'évoquais aussi au tout début de cette émission, lequel vous a bouleversé le plus? Wiesel, Primo Levi?
Moi, je vais citer Maus de Spiegelman, ouais. La bande dessinée, voilà. Enfin, elles sont tout est évidemment passionnant, mais celle-ci, elle m'a frappé jeune, on va dire, et donc voilà, je la relis, je l'offre et je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens dans cette, enfin de bon sens, beaucoup de matière à réflexion en tout cas dans l'histoire de Vladek.
Laurence Agalovitch,
vous me posez une colle.
Ouais.
Mais en fait, je me rends compte que pour écrire ce livre, je n'ai pas lu d'œuvres, je dirais, romanesques consacrées à cette question-là. Alors, probablement que La Nuit d'Elie Wiesel, puisque elle raconte, ce livre raconte la longue marche et le fait qu'Elie Wiesel ait été à Buchenwald.
Pose cette question. Hein.
Oui, oui.
Il est où, Dieu ?
Oui, tout à fait. M'a probablement marqué d'une manière extrêmement prégnante et que tout au long du livre, finalement, le fantôme d'Elie Wiesel m'accompagnait. Mais Maros, évidemment, est un très bon exemple, effectivement, qui est peut-être le plus abordable et le plus parlant.
Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres. J'écris ton nom, Sylvestre Sby, c'est paru aux éditions Belfond. Et puis Le temps des orphelins de Laurence Agalovic, paru chez Buchet-Chastel. Le coup de cœur de Stéphane Bataillon. Merci Stéphane. Les variations de la citerne de Jean Wagner chez Actes Sud. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation. Merci à Laurence Agalovic et merci Sylvestre Sby. Au pied de la lettre, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture. Pas un jour sans un livre.